Écoutez, bonjour à chacun. C'est vraiment une joie pour moi d'être avec vous ce matin. Et merci à l'Église pour cette invitation. Pour moi, c'est un vrai cadeau. Peut-être pas pour vous. En tout cas, je tenais à remercier l'Église pour vos prières, mais aussi pour votre soutien financier pour mes études. Parce qu'en fait, ce n'est pas juste un don. C'est une vraie participation directe à ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Et donc, vous avez semé, et aujourd'hui, bien, quelque part, on récolte ensemble. Et justement, côté études, j'arrive à la fin. Trois années intenses. Trois années où Dieu a travaillé, parfois en profondeur, parfois en douceur, et parfois un peu plus chirurgical aussi. Alors, côté santé, comme certains le savent, j'ai été hospitalisé en décembre dernier. Ça a été un moment particulier quand même. Tu te retrouves à ralentir, à réfléchir, à dépendre autrement. Alors je ne sais pas comment, mais oui, j'ai attrapé la tuberculose. Ça existe toujours. Mais aujourd'hui, je vais mieux. Alors je suis toujours sous traitement jusqu'en juin. Mais Dieu est fidèle. Il accompagne, il relève. Et si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est pas parce que je vais mieux, mais c'est parce que Dieu continue d'agir. Alors merci. Je vais simplement prier pour mettre ce temps de prédication entre les mains de notre Seigneur. Oui Père, on est là devant toi. Merci pour ce moment. Merci parce que tu parles encore aujourd'hui. Pas juste dans un livre, mais aussi dans notre vie, Seigneur. Dispose notre cœur à l'écoute de ta parole. Et que ta parole descende, qu'elle travaille en nous, qu'elle puisse nous transformer. Seigneur, garde-moi fidèle au texte, que toi seul sois glorifié. Saint-Esprit, prends toute la place. Conduis ce moment dans le beau nom de Jésus. Amen. Alors, janvier dernier, période des soldes. Je passe devant un magasin et à travers la vitrine, je vois un énorme panneau, jusqu'à moins 70%. Waouh ! Je décide d'entrer. Et là, je sens directement l'ambiance. Les cintres qui claquent, les bip-bip des caisses, les soupirs de l'attente. Il y a du monde, mais pas juste un peu de monde. Du monde motivé, très motivé. Et je vois dans leur regard détermination, objectif, mission. Il y en a un, il tient trois cintres dans une main, comme s'il partait au combat. Une dame, elle scanne les étiquettes à une vitesse. Franchement, je n'ai jamais vu ça. Et au fond, dans les cabines d'essayage, j'entends des « Ah, ça, j'aime pas. Eh, ça te va bien. Ah, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. » Vous voyez le cri de victoire un peu. Et là, moi aussi, je commence à fouiller. Je pousse deux, trois vestes. Je regarde, je cherche, sans trop savoir quoi. Et puis, je la vois. Une chemise, bien pliée, presque en train de m'attendre. Je la prends, je passe la main dessus. Le tissu est agréable, la couleur est nickel, la coupe est parfaite. En fait, c'est le genre de chemise où je me suis dit, celle-là, je vais prêcher avec. Et là, je baisse les yeux. Je regarde l'étiquette. Moins 60%. Là, mon cœur me dit, mais c'est un signe du Seigneur. Je regarde l'ancien prix qui est barré. Je regarde le nouveau prix. Je refais le calcul. Une fois, deux fois. Je la prends. Je la repose. Je la reprends. Et là commence le petit combat intérieur. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Non, mais à ce prix-là, c'est dommage de passer à côté. Alors, je la garde dans la main. Je fais semblant de réfléchir, mais au fond, c'est déjà décidé. Résultat, je passe en caisse. Et là, je me dis, wow, super, j'ai fait une superbe affaire. Et pourtant, elle est restée dans le placard. Jamais portée. Parce que sur le moment, j'étais sûr d'une chose, c'est un avantage. Mais en réalité, c'était juste une illusion. Et nous, on est comme ça. On appelle avantage ce qui nous fait plaisir tout de suite, ce qui nous donne l'impression de gagner. Même si au fond, ça ne change rien. Et dans le texte que nous allons voir ce matin, Jésus est avec ses disciples. Et il parle aussi d'un avantage. Mais à ce moment-là, ils ne sont pas dans un centre commercial. Et les disciples ne doivent pas voir ça comme une promotion, mais comme une perte. Et il dit une chose encore plus surprenante. Un départ à ton avantage. Un départ à ton avantage. Lisons ensemble, je vais aussi afficher le texte. Jean chapitre 16, versets 7 à 16. Et je vais le lire dans la version Nouvelle Bible Second. Je lis. Cependant, moi, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que moi, je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera venu, lui, il confondra le monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, parce qu'ils ne mettent pas leur foi en moi. En matière de justice, parce que je m'en vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand il viendra, lui, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de sa propre initiative, mais il dira tout ce qu'il entendra et il vous annoncera ce qui est à venir. Lui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi pour vous l'annoncer. Tout ce qu'a le Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi pour vous l'annoncer. Encore un peu, et vous ne me verrez plus. Puis encore un peu, et vous me verrez. Amen. Alors là, il faut bien capter le moment. Parce qu'on est dans les dernières heures avec Jésus, juste avant la croix. Jésus est en train de préparer ses disciples à vivre sans sa présence visible. Et eux, ils ne sont pas prêts. Mais alors, pas du tout. Ils entendent « je m'en vais ». Mais ils comprennent « on va être seul ». Et ça, c'est le problème. Parce qu'ils raisonnent encore un peu comme nous, on le fait souvent. Si Jésus est là, tout va bien. S'il n'est plus là, ça devient compliqué. Et Jésus ne leur explique pas juste ce qui va se passer, mais aussi comment ils vont tenir après. Et au cœur de tout ça, il y a une promesse. Ils ne seront pas livrés à eux-mêmes. Mais eux, à ce moment-là, ils n'y croient pas. Ils ne comprennent pas encore. Et forcément, une question se pose. En quoi c'est un avantage qu'ils partent? Et Jésus commence ici. Un avantage plus grand qu'une présence visible. Alors imaginez la scène. Les disciples sont là, autour de Jésus. Ils sont dans une pièce fermée. L'air est lourd. On sent presque l'odeur du repas qui traîne. Et Jésus parle. Mais plus il parle, plus les visages se ferment. Personne ne coupe la parole. Mais tout le monde pense la même chose. Mais attends, là il est en train de dire qu'il part. Et là, Jésus dit clairement, il est avantageux pour vous que moi, je m'en aille. Et franchement, on serait dans la pièce, on aurait envie de dire, mais Seigneur, là, tu t'es trompé. Mais écoutez bien, quand Jésus dit qu'il s'en va, il ne parle pas d'un déménagement, il parle de la croix. Dans quelques heures, ils vont le voir arrêté, de nuit, comme un criminel. Des torches, des cris, des mains qui le saisissent. Ils vont le voir humilié, on lui crache dessus. Les regards qui se détournent, ils vont le voir frapper. Les coups tombent, secs, répétés. Et puis ils vont l'entendre, le marteau sur les clous, le bois qui vibre, le sang qui coule, et ce silence, lourd, après les cris. Ce silence où tu comprends, c'est fini. Pour eux, ce n'est pas un départ, c'est un effondrement. Leur maître meurt, leur espérance tombe, leur monde s'écroule. Et pourtant, c'est là que tout commence. Parce que sans la croix, pas de pardon. Sans la résurrection, pas de victoire. Sans son retour auprès du Père, pas d'envoi de l'Esprit. Le départ de Jésus, ce n'est pas une perte, c'est une victoire qui s'ouvre. Et les disciples ont construit leur sécurité sur sa présence visible. Quand ça allait mal, Jésus était là. Quand ils ne comprenaient rien, Jésus expliquait. Quand ils paniquaient, Jésus calmait. Et là, plus de Jésus. Mais pour eux, tout s'arrête. Et pourtant, Jésus leur dit, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alors attention, le Saint-Esprit, ce n'est pas une version light de Jésus. Ce n'est pas non plus une nouveauté qui sort de nulle part. L'Esprit est là depuis le début, avant même la création. Il était déjà à l'œuvre. Genèse 1 nous le rappelle, il plane au-dessus des eaux. Donc Dieu n'improvise rien. Il accomplit un plan. Et dans l'Ancien Testament, c'est vrai, son action était différente. Il venait sur certaines personnes, à un certain moment, pour des missions précises. Un roi, une prophète, un juge, il les saisit, il les équipe. Et il agit à travers eux. Mais ce n'était pas permanent. Ce n'était pas pour tous. Et là, Jésus annonce un basculement. Ce n'est plus ponctuel, c'est permanent. Ce n'est plus pour quelques-uns, c'est pour tous. Ce n'est plus sur toi, c'est en toi. Mais le problème des disciples, ce n'est pas l'absence de Jésus. C'est leur manière de penser la présence de Jésus. Vous voyez, ils pensent présence égale visible. Mais Jésus leur dit, ma présence est bien réelle, même si tu ne vois pas. Et nous, aujourd'hui, on fait un peu la même chose. Voyez, on vit comme si Dieu était resté à l'extérieur. On entre dans nos journées, nos décisions, nos problèmes, comme si on était seul. On prie comme si on envoyait un message vocal à Dieu. « Seigneur, si tu m'entends, rappelle-moi. » Alors que lui, il est déjà là. Et laissez-moi vous poser une question. Quand tu entres dans tes combats, tu entres seul ou accompagné? C'est vrai que parfois on préfère vivre seul. Pourquoi? Eh bien parce que si Dieu est vraiment là, alors on ne peut plus faire comme si de rien n'était. Notre attitude change, nos choix deviennent visibles, notre cœur est exposé. On veut sa présence, mais pas trop proche. Juste assez pour nous rassurer, mais pas assez pour nous transformer. Mais Jésus ne parle pas d'une présence décorative. Il parle d'une présence réelle. Une présence qui agit, qui parle, qui oriente. D'ailleurs, vous connaissez ce moment où tu t'apprêtes à répondre sèchement à quelqu'un. Il y a comme un frein intérieur. Tu es dans le flou et pourtant, une paix étrange s'installe. Ça, ce n'est pas notre imagination, c'est lui. Mais nous, on a une capacité incroyable à ignorer. Voyez, un peu comme un GPS qui te dirait « tourne à droite ». Mais toi, tu dis « non, je connais le raccourci ». 5 minutes après, tu es perdu. Et tu dis « mais ce GPS-là, il est nul ». Non, c'est nous qui n'écoutons pas. Combien de fois cette semaine nous avons ignoré avant de dire « Seigneur, aide-moi ». On n'est pas abandonné, on est accompagné, mais parfois inattentif. Et c'est là que Jésus veut nous amener un peu plus loin. Parce que cette présence, elle ne fait pas que nous entourer. Elle se rapproche encore et encore, jusqu'à devenir intérieure. Ce que les disciples ne comprennent pas encore, c'est que cette présence qu'il promet, ce n'est pas seulement avec eux. C'est en eux, pas de temps en temps, à distance ou une visite, en eux. Vous voyez, on devient une maison habitée. On n'est pas des Airbnb spirituels, on est une résidence principale. Une présence nouvelle a commencé. Et cette présence, elle n'est pas juste autour de nous. Elle est venue tellement proche qu'elle a fait de nous sa demeure. Dieu est présent. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'il fait ce Dieu en nous? Parce que s'il est là, ce n'est pas juste pour te tenir compagnie. Voyez, ce n'est pas un colocataire discret qui ne dit rien. Jésus dit, quand il viendra, il convaincra. Autrement dit, il ne vient pas juste habiter, il vient agir. Et c'est là que Jésus appuie. Parce que cette présence, ce n'est pas juste pour te rassurer. Elle va te parler, elle va te déranger, elle va te remettre face à la vérité. Et c'est là qu'on voit un deuxième avantage. Un avantage qui te révèle la vérité. Alors revenons à la pièce. L'ambiance est toujours aussi lourde. Personne ne rigole. On entend presque les chaises grincer. Les disciples encaissent la nouvelle. Et là, Jésus enfonce le clou. Vous voyez, il ne leur dit pas, les gars, ça va aller. Quand il viendra, il vous convaincra. Autrement dit, ça va secouer. Et là, Jésus parle d'abord du monde, pas de l'Église ou des croyants. Il parle de ceux qui vivent sans lui. C'est eux que l'Esprit vient confronter. C'est eux que l'Esprit vient réveiller. Vous voyez? Mais attendez, ce monde, ce n'est pas une catégorie à part. C'est nous, c'est là d'où on vient tous. Alors, peut-être que je me trompe, mais personne ici est né en croyant. Personne n'est sorti du ventre de sa mère avec une Bible à la main et en criant « Alléluia ». On a tous, à un moment donné, vécu comme si Jésus était secondaire, optionnel ou même inutile. Donc, quand Jésus dit « Il convaincra le monde », ça ne nous exclut pas. Ça raconte notre histoire. Et là, comprenez bien une chose. Quand Jésus dit « Il convaincra le monde », il ne parle pas d'une voix qui tombe du ciel. Il parle d'une œuvre qui va passer par les disciples. Parce que dans quelques jours, ceux qui sont assis dans cette pièce avec Jésus vont sortir, parler, annoncer Jésus. Et c'est à travers leur vie, à travers leurs paroles que l'Esprit va toucher les cœurs. Autrement dit, on n'est pas seul, mais on n'est pas spectateur non plus. Le Saint-Esprit ne remplace pas notre bouche, il la remplit. Il ne remplace pas notre vie, il l'utilise. Alors oui, c'est lui qui convainc. Mais il le fait souvent à travers quelqu'un qui ose parler. Et la question pour nous, c'est quand l'Esprit veut toucher quelqu'un autour de toi, est-ce qu'il peut passer par toi ou est-ce que tu es fermé? Vous savez, on aime bien un Dieu qui console, mais un Dieu qui vient te dire « là, tu as tort », ça on aime moins. Et moi le premier. Vous savez, moi j'aime bien moi un Dieu qui m'encourage. Mais quand il met le doigt sur quelque chose là, j'ai envie de changer de sujet. Le Saint-Esprit ne vient pas juste corriger quelques défauts. Il vient renverser le faux procès fait à Jésus. Et là, ça devient sérieux. Jésus explique trois choses, trois révélations. D'abord, le péché. Et là, Jésus va droit au cœur du problème. Parce que le problème principal, ce n'est pas d'abord nos paroles, nos actions ou, vous savez, nos petits dérapages. C'est notre position face à Jésus. Vous savez, on peut être quelqu'un de bien, de carré, de poli, respectable, même au volant, et passer à côté de lui. Le vrai péché, c'est de dire « Jésus, je gère sans toi ». Et pas forcément rejeter Jésus violemment, mais juste le mettre en option. Parce que le Saint-Esprit nous dit « ben voilà, c'est ça le problème ». Alors, est-ce que Jésus dirige vraiment notre vie ou est-ce qu'il accompagne seulement nos projets? Ensuite, la justice. Et là, l'Esprit rétablit la vérité sur Jésus. voyez, le monde a regardé Jésus, il a dit, lui, il est coupable. Mais Dieu le Père a dit, lui, il est juste. Résurrection, ascension, validation totale. Autrement dit, le monde s'est trompé sur Jésus. Et nous aussi, souvent. Vous savez, on se fabrique un Jésus à notre taille. Un Jésus qui valide, qui ne dérange pas. Et parfois même un Jésus version coach sympa. Mais le vrai Jésus, c'est le standard. Le Saint-Esprit ne vient pas améliorer notre vie. Il vient nous repositionner face à Jésus. Voyez, il nous dit, regarde Christ. Voilà la vraie justice. Et enfin, le jugement. Et là, Jésus arrache le masque du mal. Ça, c'est énorme. Ça veut dire, le mal fait du bruit, mais il a déjà perdu. Il séduit, il promet, mais il est déjà condamné. Vous savez, c'est un peu comme un match déjà gagné, mais où l'adversaire continue de faire le malin. Bien, le Saint-Esprit enlève le maquillage. Il te montre ce truc qui t'attire. Ce n'est pas neutre, ce n'est pas innocent. Ça mène à une défaite déjà écrite. Quand l'Esprit agit, il ne fait pas juste nous dire « améliore-toi un peu ». Il nous pose une question bien plus profonde. Qui a raison sur Jésus ? Le monde ou le Père ? Et ça, ça change tout. Parce que quand Jésus reste un détail, rien ne change vraiment. Mais quand Jésus devient le centre, tout est exposé, tout est réajusté, tout est transformé. Vous savez, le Saint-Esprit ne fait pas que pointer nos erreurs. Il révèle le vrai drame. Refuser Jésus, mal comprendre Jésus ou suivre un monde déjà jugé, eh bien ça, ce n'est pas une condamnation. C'est une grâce. Parce qu'un cœur encore dérangé, c'est un cœur encore vivant. Celui qui nous confronte, c'est aussi celui qui nous conduit. Parce que Dieu ne nous laisse jamais exposés sans direction, convaincus sans chemin et réveillés sans accompagnement. Autrement dit, il ne se contente pas de nous dire « tu te trompes ». Il nous prend par la main. Et ça, c'est un troisième avantage énorme. Un avantage qui te conduit vers Christ. Les disciples sont déjà bouleversés. Jésus s'en va. Et l'Esprit ne va pas juste les consoler, il va aussi les confronter. Et là, Jésus ajoute, « J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. » Traduction, « Les gars, vous n'êtes pas prêts. » Et ça, c'est dur à entendre. Parce que nous, on est pareil, on veut tout savoir, tout comprendre, et tout de suite. Seigneur, montre-moi toute ta volonté. Dis-moi ce que je dois faire dans 5 ans. Donne-moi un signe clair, net, précis, avec PowerPoint, si possible. Mais Jésus leur dit non, pas maintenant. Alors pourquoi ? Eh bien parce que les disciples sont avant la croix. Ils n'ont pas encore vu Jésus crucifié, ressuscité. Et sans ça, tout ce que Jésus dirait sur le salut, la grâce, le sacrifice, serait incompréhensible ou insupportable. Et parce que leur vision de Jésus est encore fausse, les disciples attendent un roi visible, une victoire politique. Ils se souciaient davantage de la place qu'ils occuperaient dans un royaume terrestre. Mais Jésus parle d'humiliation, de départ, d'esprit invisible. Du coup, ça ne rentre pas dans leur grille. Mais, donc, même s'ils expliquent, ils ne peuvent pas le recevoir. Et aussi parce que leur cœur n'est pas prêt. Voyez, ils sont remplis de tristesse, inquiets, centrés sur la perte. Jésus vient d'annoncer son départ. Le cœur est saturé d'émotions. Et quand le cœur est saturé, la vérité ne rentre plus. Vous savez, Dieu ne donne pas toujours toute la route, mais il donne le prochain pas. Et l'Esprit ne nous a pas été donné pour satisfaire notre curiosité, mais pour former notre obéissance. Et puis Jésus lâche une promesse incroyable. L'Esprit vous conduira dans toute la vérité. C'est pas il vous remettra un rouleau ou un codex avec tout le plan détaillé. Il vous conduira. La semaine dernière, avec d'autres étudiants, vous savez, on était en stage d'évangélisation. Et on n'allait pas n'importe où. C'était les membres de l'Église qui nous conduisaient. Un coup au marché, un coup dans un centre commercial, un coup dans un quartier. Et nous, eh bien, on suivait. On ne connaissait pas les endroits. On ne savait pas qui on allait rencontrer, comment ça allait se passer. Mais on faisait une chose. On montait dans la voiture et on se laissait conduire. Alors maintenant, imaginez si à chaque trajet, on disait ça. Mais pourquoi on va là? T'es sûr que c'est le bon endroit? Moi, j'aurais choisi un autre quartier. C'est sûr qu'au bout de 10 minutes, le conducteur se retourne et dit « Bon, les gars, vous prenez le volant ou... ?» Eh bien, avec Dieu, on fait exactement ça. On veut être conduit sans lâcher le volant. Et là, il faut bien comprendre quelque chose. Vous voyez, quand Jésus parle de toute la vérité, eh bien, il parle d'abord de lui. L'Esprit va le conduire dans la vérité sur Jésus. Et aujourd'hui encore, il ne nous guide pas juste, enfin, notre agenda. Il nous guide pour faire connaître, comprendre et suivre Jésus. Et la vraie question, ce n'est pas est-ce que j'ai tout compris, mais est-ce que je lui fais confiance pour le prochain pas? Parce qu'on dit « Seigneur, conduis-moi ». Mais on aimerait garder la carte, choisir la route, valider chaque détour. Sauf que Jésus ne promet pas « L'Esprit vous expliquera tout à l'avance, mais il vous conduira ». Les disciples, quand ils ont été conduits, eh bien, ils ont été conduits vers les gens, vers les foules, des visages, vers des situations où Jésus devait être annoncé. Voyez, l'Esprit ne nous guide pas seulement pour notre vie privée. Il nous guide pour que Jésus se voit à travers notre vie. On n'est pas seul, mais on n'est pas en retrait non plus. On est guidé pour avancer, pour témoigner. Et là, Jésus va encore plus loin. Parce que conduire, ce n'est pas juste diriger, c'est recentrer. Alors il ajoute, il me glorifiera. Autrement dit, le Saint-Esprit ne vient pas nous mettre en lumière, nous. Il ne vient pas faire de nous quelqu'un d'impressionnant. Il ne vient pas juste pour que ta vie devienne juste ou confortable. Il vient pour une chose, mettre Jésus au centre. Parce que trop souvent, on veut être guidé, mais vers nous-mêmes. Seigneur, guide-moi dans mes projets, aide-moi dans mes choix, bénis ma vie. Mais l'Esprit te dit, je vais te conduire, mais vers Christ. Laissez-moi vous dire une chose. Si l'Esprit agit vraiment en nous, ce n'est pas nous qu'on verra le plus, c'est Jésus. Dans nos choix, dans nos réactions, dans notre manière d'aimer. Ce n'est pas nous qui prenons la place, c'est lui. Et parfois, c'est là qu'on bloque. Parce qu'on veut bien être aidé, mais pas déplacé. On veut être accompagné, mais pas recentré. On veut que Dieu améliore notre vie, sans forcément changer le centre. Mais le Saint-Esprit n'est pas venu pour nous aider à rester au centre. Il est venu pour remettre Jésus à sa place. Au centre de notre vie. Finalement, le problème des disciples, ce n'était pas le départ de Jésus. C'était leur définition de l'avantage. Parce que nous, on est comme dans ce magasin. Vous voyez, on voit une étiquette, moins 60%, on s'excite, on calcule et on se dit là, j'ai fait une affaire. Mais parfois, on repart avec quelque chose qui finit au placard, jamais utilisé, jamais vécu. Et avec Dieu, on fait pareil. On pense que l'avantage, c'est ce qui se voit, c'est ce qui se sent tout de suite, c'est ce qui nous rassure. Les disciples regardent Jésus et se disent, s'il part, on perd tout. Mais Jésus leur dit, non, vous gagnez. Vous perdez une présence visible, mais vous recevez une présence intérieure. Vous perdez quelqu'un à côté de vous, mais vous recevez quelqu'un en vous. Et ça, ça ne finit pas au placard. Ce n'est pas une chemise que tu portes une fois et que tu oublies. C'est une présence qui entre dans chaque moment de ta vie, dans tes combats, dans tes choix, dans tes silences, dans tes luttes. Et surtout, Jésus n'est plus limité à un endroit. Voyez, il n'est pas resté dans une pièce en Israël. Aujourd'hui, il est en nous, ici, à Saint-Maur, chez toi, dans ton quotidien, dans ta voiture, au travail, dans la souffrance, dans le doute, partout et en même temps. Alors la vraie question, c'est est-ce que tu continues à courir après des avantages qui finissent au placard? Ou est-ce que tu reçois celui que Jésus donne? Parce que Jésus ne fait pas de fausses promos. Voyez, il ne vend pas du moins 60%. Il donne son esprit à 100% à celui qui reçoit. Et ça, ce n'est pas une bonne affaire. C'est une vie nouvelle. Et aujourd'hui, si tu as l'impression d'être seul, si tu vis comme si tout reposait sur toi, rappelle-toi, tu es habité. Alors arrête de vivre comme vide quand Dieu a décidé de faire de toi sa demeure. Amen. Prions. Père, merci pour ta parole. Merci parce que tu es là, vraiment là, Seigneur. Pardonne-nous parce que trop souvent on vit comme si on était seul. Alors que tu habites en nous, apprends-nous à t'écouter, apprends-nous à te suivre. Là où on s'égare, Seigneur, ramène-nous. Que Jésus, toi, notre Seigneur et Sauveur, tu sois le centre de notre vie. Et Saint-Esprit, convainc-nous, mais conduis-nous aussi. Donne-nous le prochain pas et le courage de le faire. Et qu'à partir d'aujourd'hui, on puisse se rappeler qu'on n'avance plus seul en ton nom. Amen.